Samedi. Didi sut qu'elle était dans le pétrin dès qu'elle se réveilla au son d'un spot pour lubrifiant intime. D'après la pub, l'homme en utilisait un pour se procurer un frisson de plaisir, la femme un autre pour faire monter la fièvre du désir et ensuite, quand ils se retrouvaient... Didi voulait savoir. Mince, il fallait qu'elle sache. Elle resta plantée plusieurs minutes à moitié nue dans son séjour en regardant son écran de télé comme si cela devait faire revenir la pub. Sauf que cette fois, ce serait elle et, disons, Alex Wilson entre ses draps froissés. Elle porterait une de ses cravates de soie. Lui ne porterait rien du tout. Oh, puis merde, quelle vie à la con. Didi monta sur son tapis de course, enchaîna deux sessions de 10 minutes à 13 km/h, descendit 2 tasses d'expresso et partit travailler. Elle arriva au QG à 8h30, armée d'une 12aine de beignets. La plupart de ses collègues tenaient trop à leur santé pour manger des beignets, pas de problème, elle était d'humeur à s'envoyer la moitié de la boîte. Elle commença par un fourré à la crème, se servit une nouvelle tasse de café façon brigade criminelle et passa à l'action. Samedi matin, 9h, toute son équipe plus Alex était réunie dans son petit bureau. Ils avaient quelque chose comme 30 minutes pour passer au crible les dernières 48 heures, après quoi il faudrait qu'elle rende compte au commissaire divisionnaire. Vu la scène de crime de la veille, se trouvait-il face à 2 tueries sans rapport l'une avec l'autre? Ou bien s'agissait-il d'une seule et même affaire, d'autant plus terrifiante? Dans la première hypothèse, ils auraient 2 dossiers suivis par 2 équipes. Dans la seconde, il faudrait former une cellule de crise officielle. Didi fit passer de grands cafés, montra la boîte de pâtisserie à moitié vide et prit place à côté du tableau blanc vierge. Alex s'assit en face d'elle. Comme on était samedi, il portait un pantalon kaki et un polo indigo. Le polo soulignait le bleu profond de ses yeux, le pantalon tombait sur des jambes bien dessinées, athlétiques. Et puis il y avait ses mains, avec ses longs doigts calleux posés sur ses genoux. « Où sont passés tous les beignets ?» demanda Phil. « Va te faire voir, » dit Didi en se retournant vers le tableau. « Profil des victimes, » annonça-t-elle. « Nous avons les Harrington à Dorchester. » Blanc, chrétien, classe populaire, résuma Phil. Il avait trouvé un beignet de nappette glaçage au sirop d'érable et mâchonnait d'un air réjoui. École, travail, paroisse, association, adresse précédente. Phil donna à toute allure une liste avec adresse de toutes leurs activités et associations connues. Didi nota consciencieusement chaque réponse, puis traça une ligne au milieu du tableau pour créer une 2e colonne. Ok. De l'autre côté, on a le clan de la raquette Solis. Blanc, trafiquant de drogue. Revenu modeste, indiqua Phil. 4 enfants de pères différents, intervint Alex. Bien connu des services à l'enfance, reprit Phil. Bien connu des services de l'immigration, ajouta Neil, le 3e membre de l'équipe, depuis le fond de la pièce. Neil avait la pâleur spectrale d'un homme qui vivait trop sous les néons, d'autant qu'il venait de passer les 2 derniers jours dans les locaux du légiste pour superviser les autopsies des Harrington, et qu'il y avait maintenant 6 nouveaux cadavres. Neil avait été urgentiste. Cela faisait de lui le mieux placé pour ses missions. Il s'avère qu'Hermès Laraquette venait de la Barbade, continuait Neil en jetant un œil sur ses notes. Hermès était un red leg, c'est-à-dire qu'il appartenait à ce sous-prolétariat blanc qui descend d'engagés, de criminels, etc. Il était recherché par l'immigration. Un dossier qu'ils peuvent refermer maintenant. « École, travail, paroisse, association, adresse précédente ?» relança Didi. Cette liste-là était brève. Le clan Laraquette Solis vivait de l'autre côté de Boston, à Jamaica Plains. Ils n'étaient pas connus pour leur engagement associatif ni leur conscience citoyenne. La famille était arrivée dans le quartier 6 mois plus tôt, et si Hermès aimait flâner en bonnet multicolore, on voyait rarement la femme et les enfants dehors. Cela dépassait Didi. Comment pouvait-on rester à l'intérieur avec cette puanteur ? Elle relut la liste sous le nom des Harrington, puis celle sous le nom de Laraquette. Rien ne lui sauta aux yeux. Des ennemis ? Personne ne connaissait d'ennemis aux Harrington. Pour les Laraquette, en revanche, vu le trafic de drogue d'Hermès, il allait falloir plusieurs jours pour établir la liste. Didi écrivit, à creuser. Bon, continua-t-elle avec entrain. D'après nos listes, il n'y a pas de recoupement évident entre l'univers des Harrington et celui des Laraquette. Si on raisonne logiquement, comment ces 2 familles pouvaient-elles se connaître ? Les œuvres missionnaires ? Proposa Alex. si la paroisse d'Harrington a des actions en direction des familles modestes, ou s'ils ont pris des initiatives personnelles. Ça vaut le coup de vérifier, reconnut Didi. Les Harrington sont des gens charitables et les Larraquette auraient eu bien besoin d'un peu de charité. D'autres liens possibles? Les enfants, suggéra Neil. Les adolescents sont à peu près du même âge. Ils s'étaient peut-être rencontrés en faisant du sport, en colonie de vacances, ce genre de choses. Didi le nota. Famille d'accueil, enfants difficiles, continua Phil en disant tout ce qui lui passait par la tête. Les Harrington avaient adopté Ozzy, dont nous savons qu'il était passé par toute une série de familles avant d'arriver chez eux. Tu crois que les Larraquette auraient été famille d'accueil pour Ozzy? Demanda Didi dubitative. Je verrais plutôt ça dans l'autre sens. Les services de l'enfance auraient cherché à placer les enfants Larraquette pour les sortir de Stody. Ça aussi, reconnut Phil. C'est vrai, on sait que les Harrington s'intéressaient à l'enfance en danger et les enfants Larraquette étaient en danger. D'accord, vu comme ça, je veux bien. On va appeler les services sociaux, ils sont toujours ravis d'avoir de nos nouvelles. D'autres possibilités? Comme le groupe ne disait rien, Didi prit quelques notes, effaça le tableau blanc et lança le sujet de discussion numéro 2, les scènes de crime. Neil, le grand Manitou des autopsies, ouvrit le bal. Le légiste a confirmé que la mère, Denise Harrington, le fils aîné, Jacob, et le plus jeune, Oswald, sont tous morts d'une seule blessure par arme blanche. À noter qu'aucune des plaies ne trahit le moindre signe d'hésitation. Seigneur, marmonna Phil, seul père de famille de la pièce. La fille, Molly, a reçu un coup de couteau en haut du bras gauche, mais la cause du décès est une strangulation manuelle. Fracture de l'os hyoïde, ce qui indique que l'assassin a beaucoup de force dans les mains. « Comme un enfant de 9 ans ?» demanda Didi. Neil la regarda. « Peu de chance. » Il se repencha sur ses notes. Quant au père Patrick Harrington, le légiste ne s'y est pas encore attaqué. Mais d'après le dossier médical, il est mort de complications consécutives à une blessure par balle, œdème cérébral. « D'accord. Donc 3 par arme blanche, 1 par strangulation, 1 par arme à feu. Plutôt original, ça. » La plupart des familicides s'en tiennent à un seul mode opératoire, non ? Demanda Didi en interrogeant Alex du regard. Celui-ci confirma. Parmi les méthodes classiques, on trouve les armes à feu, les drogues et ou l'empoisonnement au monoxyde de carbone. Il arrive que le père commence par droguer les membres de la famille, sans doute pour limiter leurs souffrances, et ensuite il les tue par balle. Si on inclut les familicides adolescents, le fils maltraité qui veut se venger, on peut ajouter le gourdin et ou l'incendie volontaire à la liste des méthodes. Je n'ai jamais entendu parler d'un cas où un seul et même agresseur aurait changé d'arme en passant d'une victime à l'autre. Un seul et même agresseur, releva Didi. Parlons une seconde du nombre d'assassins. Il y a des cas où l'adolescent a un complice. Par exemple, la fille et son petit copain, qui suppriment la famille de la fille pour pouvoir être ensemble. Et il n'y a pas eu cette affaire où une fille et sa petite copine lesbienne avaient assassiné les grands-parents pour pouvoir être ensemble, des trucs comme ça? Quand un adolescent est l'instigateur d'une tuerie familiale, on a des exemples de participation du partenaire. Mais dans ces cas-là, les deux membres du couple assassinent l'ensemble de la famille incriminée et s'enfuient ensemble. Le partenaire ne tue pas la famille, puis l'adolescent instigateur avant de s'en aller. Et si le complice s'est retourné contre l'instigateur? Pourquoi? Aucune idée? Il y a peu de chance, dit Alex. D'ailleurs, la scène de crime est méthodique chez les Harrington. Deux adolescents pris de fureur meurtrière ne laisseront jamais une maison nickel comme ça. Nous cherchons un assassin d'une force et d'une intelligence supérieure à la moyenne. Patient, calculateur et expérimenté. Trouve-moi cet assassin et on en reparle. Pas faux. Que savons-nous du couteau? Le couteau utilisé chez les Harrington appartenait à un jeu qu'on a retrouvé dans la cuisine. Phil avait fini son beignet et époussetait les miettes sur son ventre arrondi. Mange trop sale pour fournir les empreintes. Et le pistolet? Déclaré au nom de Patrick Harrington, ses empreintes sur la crosse. Donc les armes ont été trouvées sur place. Phil confirma d'un signe de tête. D'accord. Et la scène Larraquette Solis? Alex prit la parole cette fois-ci, un œil sur ses notes. Plusieurs modes opératoires. 4 morts par arme à feu, l'homme dans le séjour, l'adolescent dans le couloir et les 2 filles dans leur chambre. La femme, Audie Solis, a été poignardée à mort dans la cuisine. Le bébé a été étouffé dans son berceau, sans doute avec un oreiller. On ne sait pas encore dans quel ordre. Possible que le père ait supprimé la famille, puis se soit couché sur le canapé pour se tirer une balle. Possible aussi qu'il ait été tué le premier, ensuite la famille, et qu'on ait reposé le pistolet près du père pour le faire accuser. « Le couteau ?» demanda Didi. « Appartient au jeu retrouvé dans la cuisine, » répéta Phil. « Pas d'empreinte sur le manche. »« Pistolet ?»« Pas déclaré, numéro de série limé. » »« Volé, » supposa Didi. « Marché noir. » »« À tous les coups, vu les activités d'Hermès. » Un flingue fauché destiné aux petits trafiquants, conclut Didi. Elle s'arrêta un instant, examina leur liste. Intéressant qu'on retrouve les trois mêmes modes opératoires sur les deux scènes. Arme à feu, arme blanche, asphyxie. Et que dans les deux cas, les armes aient été découvertes sur place. Rien de concluant, objecta Alex. Non, mais intéressant. Tu l'as dit, ce type de meurtre se caractérise généralement par une méthode unique. Et là, nous avons deux scènes où une famille entière a été supprimée avec trois modes opératoires différents et où les armes ont été trouvées sur place. Quelle est la probabilité d'une chose pareille ? Phénomène d'imitation ? demanda Neil depuis le fond de la pièce. Impossible, répondit Didi en secouant la tête. Nous n'avons pas encore informé les médias de la cause des décès. Ils savent que Patrick Harrington a été admis à l'hôpital pour blessure par balle, mais nous n'avons pas parlé des meurtres à l'arme blanche. Et encore moins révélé que Molly Harrington avait été étranglée. Nouveau silence éloquent. Didi reposa le marqueur bleu. « Houston, » dit-elle, « je crois qu'on a un problème. » Le supérieur de Didi ne voulait pas s'affoler tout de suite. Certes, il y avait de troublantes coïncidences entre les affaires à Harrington et la raquette, mais ces coïncidences pouvaient être purement accidentelles. Or, former une cellule de crise officielle ne manquerait pas d'attirer l'attention des médias. En deux temps trois mouvements, la première animatrice de talk-show venue annoncerait qu'il existait un lien entre les deux affaires et qu'un cinglé se promenait dans tout Boston pour assassiner des familles entières. Le téléphone n'arrêterait plus de sonner, le maire exigerait un communiqué et ça partirait dans tous les sens. On était au mois d'août, les gens avaient chaud et s'énervaient très vite. Moins on en dirait, mieux ce serait. Moyennant quoi, le commissaire divisionnaire eut une idée lumineuse. L'équipe de Didi pouvait se charger des deux enquêtes. Comme ça, si d'autres coïncidences venaient à être découvertes, il reconstituerait rapidement le puzzle. Didi fit remarquer que demander à trois agents d'enquêter sur deux tueries était un peu excessif. Son supérieur répliqua qu'à toutes fins utiles, elle se trouvait en réalité à la tête d'une équipe de quatre agents. Le professeur Alex Wilson pouvait l'assister dans la rédaction des rapports sur les scènes de crime. Elle exigea deux enquêteurs supplémentaires au minimum. Il lui accorda l'appui de la brigade des stupéfiants qui lui fournirait des informations sur les activités d'Hermès. Comme c'était plus qu'elle n'en obtenait généralement de son patron stressé et soumis à des contraintes budgétaires, Didi considéra cela comme une victoire. Son équipe accueillit la nouvelle sans sourciller. Quoi ? Ils allaient prendre leur repas au bureau et négliger leur famille ? Cela allait sans dire en cette belle époque de baisse des financements publics et de hausse exponentielle du taux de criminalité. On ne choisissait pas ce métier pour la qualité de vie. Vu le dur week-end en perspective, Didi décida que la première chose à faire était une pause déjeuner. Une demi-douzaine de beignets ne vous calait pas une fille aussi longtemps qu'on aurait pu le croire. Par chance, non seulement la cafétéria du commissariat central était commodément située au sous-sol, mais elle était connue pour être excellente. Didi prit un sandwich au roast beef saignant sur pain de seigle, généreusement garni, et une énorme tranche de cake au citron. Phil, dont elle aurait juré qu'il était à moitié femme, commanda une salade du chef. Neil demanda un sandwich aux œufs, un choix discutable, songea Didi, pour quelqu'un qui était attendu à la morgue. Le rouquin efflanqué engloutit son sandwich en quatre bouchées et s'en alla en sifflotant gaiement. Didi le soupçonna d'avoir le béguin pour le légiste. Dieu sait qu'ils passaient de sacrés bons moments ensemble. Alex s'assit à côté de Didi avec du poulet grillé et dépenné. Elle ne put se défendre d'un certain respect en le voyant prendre un repas chaud alors qu'il faisait plus de 32 degrés. Il se servit abondamment de sel, de pili-pili, de parmesan, puis, après quelques essais, parut décider que son déjeuner était prêt. Sacrément difficile, question nourriture. Nu, dans son lit. Frisson de plaisir, fièvre du désir. Didi prit une énorme bouchée de sandwich. Tu peux quand même pas croire réellement que les deux affaires sont liées, demanda Alex au bout d'une minute. Phil faisait du tri dans sa salade, écartait les tomates et y allait franco avec la sauce mayonnaise crème fraîche. En entendant Alex, il leva les yeux et regarda Didi d'un air tout aussi sceptique. Elle prit une autre bouchée, mâcha, avala. « J'arrive pas à me décider », finit-elle par dire. « Tu dois bien avoir une idée », répliqua Phil, « pour nous avoir collé deux affaires sur les bras. » « Les victimes n'ont rien en commun », reprit Alex. Vu les différences de situation géographique, d'activité et de mode de vie entre les deux familles, quelle chance y a-t-il qu'elles aient connu le même fou dangereux ? Peut-être qu'elles ne connaissaient pas le meurtrier, suggéra Didi. Alex était sceptique. La probabilité est encore plus faible s'agissant de l'agression d'une famille entière, qui, au moins dans le cas d'Harrington, s'est produite alors qu'il faisait encore jour. Un tueur mal organisé aurait pu avoir l'impulsivité nécessaire pour une telle agression, mais pas cette approche méthodique. Et les tueurs organisés prennent généralement le temps de faire des repérages sur les cibles risquées. Un des premiers crimes de celui qui se faisait appeler BTK, B pour bind, T pour torture et K pour kill, a eu pour victime une famille qui finissait son petit déjeuner, riposta Didi. Elle faisait allusion au célèbre meurtrier tortionnaire qui avait sévi pendant des années au Kansas. Il les a baratinés pour qu'ils le laissent entrer, et ensuite il a tenu les enfants en joue jusqu'à ce que les parents acceptent d'être ligotés. Et une fois les parents réduits à l'impuissance, il a mis son plan à exécution. Aucune trace de lien sur nos scènes de crime, souligna Phil. Et BTK commençait par traquer ses cibles, rappela fermement Alex. Il lui fallait des mois de reconnaissance avant de passer à l'action. Là, il s'agit de deux crimes qui se sont produits à 36 heures d'intervalle. Quand aurait-il eu le temps de les suivre, de repérer chacun des membres de la famille, d'élaborer une stratégie et, tiens, j'y pense, d'apprendre qu'il y avait un 22 dans chaque maison et ensuite de mettre la main dessus? Il a eu de la chance? Alex fit les gros yeux. Si c'est une série, insista-t-il, où est la phase de décompression? La plupart de ces types attendent un peu entre deux victimes, savourent le travail accompli. C'est dégueulasse, répondit Didi avec mauvaise humeur. Elle était surtout énervée qu'Alex ait raison, ce qui signifiait qu'elle avait tort. C'était déjà assez pénible comme ça d'avoir envie de grimper au rideau sans être idiote par-dessus le marché. « C'est le problème, » dit Alex. Un seul meurtrier pour deux familles entières en moins de 36 heures, ce serait bien étonnant. Une telle soif sanguinaire associée à une maîtrise aussi parfaite, je vois pas. Ça colle pas. Mais deux pères qui décident chacun de leur côté de tuer femme et enfant en utilisant trois méthodes, les mêmes, à un jour d'intervalle, ça c'est logique. Ça arrive, les coïncidences. Il nous faut plus d'informations. Je sais, et si on enquêtait? En voilà une idée qu'elle est bonne. Alex leva les yeux au ciel, Didi attaqua son cake au citron. Je crois qu'on devrait aller se faire décrasser les chakras, annonça-t-elle. Mais, dit Phil, je suis un honnête père de famille. « Dans ce cas, t'appelles les services de l'enfance et tu trouves tout ce que tu peux sur Oswald Harrington et les Laraquette. Alex, tu viens avec moi. Mais j'ai déjà pris une douche ce matin. Hein. Pas ce genre de décrassage, on va s'occuper de notre beauté intérieure. Dans un spa ? Non, il est temps d'aller rendre une petite visite au chaman préféré de Denise Harrington, Andrew Lightfoot. »